remarque pas forcément au premier coup d'œil. D'ailleurs, on dit pudiquement que ces enfants souffrent d'un handicap invisible. En France, un enfant sur 10 est concerné par des troubles de l'apprentissage, du comportement ou du développement. Ces enfants différents ont du mal à s'intégrer, à se faire des copains, à s'adapter à l'école. Et l'école, elle, ne sait pas toujours quoi faire de ces enfants atypiques qui sont en marge du système et de la norme. Alors j'ai voulu en savoir plus sur les difficultés que rencontrent ces parents pour élever et scolariser leurs enfants différents. Comment s'organisent-ils au quotidien? Au prix de quels sacrifices? Et avec quelles conséquences pour la vie de famille? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Stéphanie. La vie de cette maman a basculé quand elle a compris que son petit Flavien ne grandirait pas comme les autres et qu'elle allait devoir se battre seule pour l'aider. Je suis Olivier Delacroix. Bienvenue dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». Je suis allé à la rencontre de Stéphanie, une maman divorcée et célibataire qui élève seule trois enfants, dont Flavien, 7 ans. Depuis sa naissance, ce petit garçon souffre d'importants problèmes de langage et de comportement. Grâce à l'aide d'une AVS, il arrive à suivre une classe de CP classique. Pour Stéphanie, le combat a commencé il y a près de 2 ans. C'était en août 2010 et il me semble qu'elle n'a toujours pas accepté le diagnostic. Dès notre rencontre, je la sens fragile.
Il est dysphasique, phonologique, syntaxique. Donc c'est un trouble du langage, plus ou moins sévère.
Est-ce que vous le trouviez différent avant qu'il soit diagnostiqué?
Oui, il était différent dans son comportement. Il avait des crises de colère, sa parole, sa façon d'être en général. Tout ce qu'il voulait, il allait le chercher lui-même, ou il nous le montrait, mais il ne le désignait pas par la parole.
D'accord.
Donc là, ça m'a interpellée quand même. Je crois que c'est en moyenne section où là, je me suis vraiment dit, il y a un problème.
Mm-hmm. Alors là, en moyenne section, ça se traduisait comment à cette époque?
Toujours pareil, très, très en retrait dans la classe. Il ne faisait pratiquement pas ses exercices. L'école, c'était une galère pour lui. Les enfants dysphasiques, ils ont tendance à se mettre en retrait parce que comme ils n'ont pas la parole, et que la parole, c'est rentrer en communication bien avec l'autre, c'est la base.
Surtout chez les enfants.
Voilà, chez les enfants. Et du coup, à cause de ça, il s'est mis en retrait. Si moi, des fois, j'arrivais un peu plus tôt, ou à 11h30 ou à 4h30, et c'est vrai qu'il était souvent... J'ai un souvenir souvent au grillage, il attendait. Il attendait que j'arrive.
Oui. C'était plutôt donc un enfant seul. Oui.
À cette époque, Flavien passe une série de tests auprès de spécialistes. Le résultat tombe. Flavien est dysphasique. Comme la plupart des parents, dans ce cas-là, Stéphanie fonce sur Internet chercher des réponses pour se rassurer et tenter de comprendre. Pourtant, les médecins sont tous d'accord sur ce point. Aller sur Internet est plus destructeur qu'autre chose, car on y trouve tout et n'importe quoi.
J'ai cherché le terme dysphasique sur Internet. Mm-hmm. Et là, j'ai fait des recherches sur les différents sites qu'il y a.
Et il y en a beaucoup, je suppose.
Il y en a beaucoup. Et j'ai commencé à lire des témoignages, à lire les définitions de la dysphasie, de l'évolution, de tout ça, quoi. Donc du coup, ça fait peur, très très peur. Et là, tout s'écroule.
Pourquoi tout s'écroule, là?
Tout s'écroule parce que faut faire le deuil de l'enfant dit normal. Et après, il faut se dire, mon enfant est donc différent, comment vais-je faire pour l'accompagner? Et ça, c'est très difficile, parce que vous n'avez pas d'armes, pas de médecin, personne pour m'expliquer qu'est-ce que va devenir mon fils, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour lui. Non, vous êtes seul. Point.
Comment est-ce que vous expliquez, vous, que vous avez été toute seule à...
Je pense que le mot handicap fait peur. Je pense. Oui. On va dire que je me suis enfermée pendant 10 mois.
C'est-à-dire, en fait, renfermé pendant 10 mois. Le temps de digérer ce diagnostic, en fait.
Oui. J'ai eu le diagnostic l'année dernière, au mois d'août. Et j'ai recommencé à m'ouvrir au mois de mai. Voilà.
J'ai surprotégé mon fils, j'ai cherché des solutions, j'ai multiplié les dossiers pour faire tout ce que j'avais à faire pour lui, quoi.
Mais comment est-ce que vous êtes sortie de ces 10 mois de, visiblement, de...
De repli sur soi. Au bout de 10 mois, je pense que j'ai assumé le handicap de Flavien.
Ça veut dire que vous avez accepté.
J'ai accepté et je pense que j'ai pris conscience que de toute façon, ce combat, je le mènerai seul. Seul. Et je pense que le fait d'intégrer ça m'a permis de sortir de ma coquille et de me dire, ma cocotte, Flavien n'a que toi. Et c'est à toi de te débrouiller, c'est à toi de le faire avancer et c'est à toi de te battre.
Stéphanie se sent isolée pour affronter la situation. Elle vient de se séparer de son mari. Un divorce d'un commun accord que le couple n'attribue en aucun cas aux difficultés de Flavien. Philippe, chef d'entreprise très occupé, ne voit désormais ses enfants qu'une fois tous les 15 jours. Il ne gère donc pas la maladie de Flavien au quotidien, mais reste un papa attentif et qui veut rester optimiste face au progrès de son fils.
Est-ce que quand on est séparé, en fait, et quand on est loin, c'est quelque chose de difficile à vivre, d'avoir un enfant différent ?
C'est forcément une difficulté supplémentaire pour l'enfant.
Oui.
Parce que normalement, il devrait avoir besoin de son père et de sa mère, et c'est plus délicat, ouais.
Ouais.
C'est plus délicat.
Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui encore, votre perception de la maladie de Flavien est différente de celle de votre femme ?
Oui, parce que je pense qu'elle, effectivement, elle fait un travail formidable. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus prégnante dans la maladie de Flavien que moi, ouais, ça c'est sûr. Je le vois une fois tous les 15 jours, donc je vois des progrès réguliers au niveau de sa syntaxe, au niveau... Donc cette année, il est rentré en cours de CP et j'ai été enchanté de voir qu'au bout d'une semaine, il récitait une petite poésie, quoi. Il progresse.
Il progresse.
Il progresse. De week-end en week-end, enfin de 15 jours en 15 jours, il progresse, oui, tout à fait.
D'accord.
Ça, c'est du bonheur.
Est-ce que vous faites une différence entre Antonin, Margot et Flavien ?
Non.
Non ?
En termes de comportement, c'est un enfant tout à fait normal.
Mm-hmm. Hein ?
Il faut le laisser évoluer à son rythme. Il faut l'aider, il faut l'encourager. Mais c'est un enfant comme les autres.
Comment vous envisagez l'avenir de Flavien ? Est-ce que vous arrivez à vous projeter, à l'imaginer dans l'avenir ?
Je m'interroge beaucoup sur est-ce que Flavien aura les moyens d'être autonome, avoir une vie normale ? Ce que j'entends avoir une vie normale, c'est pouvoir lire, écrire, compter, pouvoir passer son permis de conduire, pouvoir trouver du boulot et pouvoir créer une famille. Voilà. Mm-hmm. C'est vraiment un objectif.
Et vous pensez que ça se fera ?
Oui.
Ouais.
Philippe a raison. Depuis quelques mois, Flavien est sur la bonne voie. D'ailleurs, lorsque je retrouve toute la petite tribu à l'heure du déjeuner, je découvre un enfant sociable, un peu taquin avec ses frères et sœurs.
C'est quoi la spécialité de maman ?
De bourguignon.
Non.
Elle en a d'autres aussi.
Du chocolat.
Qu'est-ce qu'elle fait bien, les mousses au chocolat ?
Des pâtes.
Non. Les pâtes ?
Ouais.
Ouais.
Des steaks hachés.
Ah oui.
Merci, panneau.
On montre Flavien.
Ouais.
À quoi ?
Au jambon.
Au jambon aussi.
Au jambon. T'aimes bien le jambon ?
Et bien non. Bon.
Non. À quoi ?
Entre le Flavien d'il y a 6-8 mois et maintenant, là.
Hein ? Il est métamorphosé, hein ?
C'est métamorphosé ? À quoi elle est due cette métamorphose, Stéphanie ?
Je pense qu'il se sent mieux dans ses baskets et puis je pense qu'il se sent plus en confiance. Enfin, il a pris ses marques et voilà quoi. Enfin, puis moi, comme depuis qu'il est en CP, moi je le trouve vachement changé quoi.
Ouais.
Il est devenu grand, il est devenu. Ouais, il a grandi.
Je mangerais bien une crêpe moi.
Ouais.
Ouais. Merci beaucoup.
Hop.
Hop, une jolie petite crêpe. Bon appétit les enfants.
Bon appétit.
Et tout le monde.
Après le repas, je m'isole avec Margot, sa sœur aînée. Je suis curieux de savoir comment une petite fille de 10 ans réagit à la maladie de son petit frère.
C'est quoi ton rôle de grande sœur par rapport à Flavien ?
Mon rôle, c'est de l'aider à progresser. Mmh. Moi, ce que je veux, c'est que mon frère, il soit comme les autres. Même si je sais qu'il y arrivera... c'est pas de sa faute, mais je sais qu'il pourra peut-être pas être tout le temps comme les autres. Mais moi, mon rôle de grande sœur, c'est de le tirer vers le haut. Mmh. Je dois m'en occuper. Mmh. Moi, ma tâche, c'est de lui apprendre à mieux lire, à mieux écrire, à mieux parler.
Donc c'est un sacré boulot, ça, quand même.
Ouais.
Ouais.
Des fois, le soir, j'arrive à lui faire écrire les jours de la semaine, mais voilà. Mmh. Quand même, il écrit assez bien, mais il y a quelques lettres, il n'arrive pas bien au début.
Est-ce que tu trouves qu'il a progressé?
Oui, beaucoup.
Beaucoup.
Parce qu'avant, il faisait presque aucune phrase. Maintenant, il pourrait dire le chat d'or.
D'accord. Dis donc, il a de la chance, d'avoir une grande sœur comme ça. Toi qui le pratiques, au jour le jour, qui est tout le temps avec lui, t'as l'impression de le comprendre vraiment?
Des fois oui, des fois un petit peu moins, mais oui, j'arrive à le comprendre. Mm-hmm.
Margot m'impressionne par sa maturité, sa lucidité et sa bienveillance aussi à l'égard de Flavien. Mais dans cette épreuve, Stéphanie peut aussi compter sur Catherine. C'est l'une de ses meilleures amies. Elles ont accouché à peu près en même temps. Une complicité précieuse.
Écoutez, ça va ?
On a été enceintes en même temps. Ils ont 3 mois d'écart.
3 mois, ouais.
Donc vous avez... C'est un peu, au début, vous avez comparé l'un et l'autre dans l'évolution?
Un petit peu, souvent on se disait, les premiers mots de Camille, elle avait 3 mois de plus, donc à la fois, à cet âge-là, c'est super important aussi. Donc souvent on se disait, pour Flavien, ça va bientôt, il en sera bientôt au même stade, dans 3 mois, on aura les mêmes petites phrases rigolotes, les mêmes types mots, Et puis, non, le décalage s'est maintenu dans le temps, en fait. Et c'est vrai que ça s'est surtout fait par des confidences, par quand elle avait des doutes. Rien que le fait de pouvoir échanger, ça l'amenait à se positionner par rapport à certaines décisions.
Avoir les choses moins noires.
Mm-hmm. Souvent, je lui dis, quitte un peu cette angoisse, détends-toi, profite des moments présents, tu culpabilises pas, c'est génial ce que tu fais. Ton enfant, tu l'encadres le mieux possible, il progresse, l'avenir, personne ne le connaît. Après, il sera peut-être pas ingénieur, il fera peut-être pas maths sup, mais il sera peut-être plus heureux que quelqu'un qui aura fait des grandes écoles dans la vie.
Ouais. Après, c'est quoi comme mot ? Non ? C'est quoi ça ?
Stéphanie a besoin d'être rassurée. Elle souffre d'être seule à assumer le handicap de Flavien au quotidien. Elle se sent obligée d'y consacrer 100% de son temps, quitte parfois à s'oublier elle-même.
À 36 ans, je suppose que vous n'avez pas fait une croix sur votre vie de femme, mais est-ce que c'est facile d'entrevoir une suite ?
J'ai envie de refaire ma vie, mais à l'heure actuelle, j'ai mes 3 enfants, je les ai à temps plein, et en plus, Flavien qui a cet handicap, c'est pas simple. Je veux pas faire une généralité, mais un homme veut bien prendre la femme, mais souvent ne veut pas prendre les enfants. Et notamment s'il y a un enfant avec un handicap.
Votre vie aujourd'hui, elle tourne autour de lui.
Tourne autour de lui. Mm-hmm. Mon rythme est... c'est rythmé en fonction des rendez-vous de Flavien. Quelque part, je suis épuisée. Épuisée par les épreuves de la vie. Par le travail, par tout ce qui nous englobe, quoi. Oui, épuisée. Mais à la fois, j'ai toujours de l'énergie, j'ai toujours un sursaut de me dire non, t'es pas épuisée, tu avances.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir de Flavien aujourd'hui ? C'est quelque chose qui, je suppose, vous...
nous angoisse.
vous angoisse, ou en tout cas, j'allais vous dire, c'est quelque chose auquel vous devez penser régulièrement.
J'y pense, mais j'ai peur. Est-ce qu'il va avoir les armes? Faut que je lui donne ces armes-là, et c'est ces angoisses-là que j'ai. C'est vrai que j'essaye de pas me projeter trop loin, mais c'est difficile. On se pose plein de questions quand on a un enfant avec un handicap. Mmh. Je pense que je serais fière de moi le jour où Flavien aura son premier emploi et qu'il fera un métier qu'il aime. Et là, je serais fière de moi. Et je serais fière, très fière de lui.
Fais attention, il pleut. Hein.
La pluie, il vient de tomber du jour.
Pardon ? Qu'est-ce que tu disais, Flavien ? La pluie, elle vient de quoi ?
De ciel.
Oui, elle vient du ciel, la pluie.
Ce soir, en quittant toute la petite tribu, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur l'avenir de Flavien. Que deviennent ses enfants lorsqu'ils sont adultes ? Restent-ils différents et exclus du système ? Ou ont-ils une chance un jour de recoller au peloton et de vivre une vie comme les autres ? Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rascle, Kevin Ousty et Jean-François Bussière. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et je vous donne rendez-vous évidemment chaque soir, du lundi au jeudi, à l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. À bientôt.